les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une nouvelle émission des quartiers. Aujourd'hui, nous sommes avec les élèves du micro-lycée d'Aristide Briand, à savoir Alex, Florian, Priscilla, Wilfried, Quentin, Laura, Stéphane et Jean, ainsi que leur professeur de philosophie, Madame Jacques. Pour cette nouvelle aventure radiophonique, nous vous parlerons de justice et plus particulièrement de justice pour les mineurs, avec en filigrane la philosophie. Au menu de ce programme, vous retrouverez des extraits du film La tête haute d'Emmanuel Berco, qui a servi de support de réflexion. Il y aura également des textes de philosophes afin de mettre en perspective nos discussions et nos échanges. Et puis évidemment, nous laisserons la part belle aux élèves du micro-lycée afin qu'ils nous fassent part de ce qu'ils pensent de cette question de la justice pour les mineurs. Ils ont d'ailleurs rencontré il y a quelques temps deux professionnels de la justice, donc, à savoir Madame Médici, juge pour enfants, et Madame Leroy, directrice d'une unité collective en milieu ouvert à la protection judiciaire des jeunes. On développera évidemment dans cette émission pour en savoir un petit peu plus. Mais avant d'aller plus loin, je voulais qu'on revienne avec Quentin, donc un des élèves du micro-lycée, afin qu'il nous donne une définition un peu plus précise et savoir où on met les pieds quand on parle de justice, et notamment de justice pour les mineurs. Quentin, bonjour à toi.
Bonjour.
Je t'en prie, est-ce que tu peux éclairer un peu nos lanternes ?
Oui. La justice pour les mineurs, c'est destiné à les protéger, à proposer des mesures d'assistance éducative et à les aider à se réinsérer dans la société, mais aussi à sanctionner. C'est ce qui explique que le juge des enfants intervient à la fois au civil et au pénal.
Très bien, merci. On va essayer de détailler un petit peu plus ça au cours de cette émission.
C'est trop bien la radio !
Principe Actif, 102.4 FM.
Alors on va, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, questionner un petit peu Madame Jacques. Donc vous êtes professeur de philosophie au lycée Aristide Briand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez participé avec vos élèves au festival du film judiciaire qui avait lieu, si je ne dis pas de bêtises, du 7 au 17 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce festival du film judiciaire ?
Bien, c'est un festival qui est organisé tous les ans par le rectorat en lien avec les services de la justice. Et cette année, le thème de la justice était plus précisément celui de la justice qui protège, qui accompagne et qui répare. Dans le cadre du festival, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'occasion de voir des films avec les élèves et ensuite de rencontrer des professionnels. Ici, donc, une juge et une représentante de la protection judiciaire de la jeunesse.
Alors, pourquoi et comment on travaille quand on est prof de philosophie autour de ces questions de justice et plus particulièrement de justice pour les mineurs ? Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre ou à questionner auprès de ces élèves ?
Ce qu'on cherche à transmettre, c'est déjà une réflexion sur la notion de justice elle-même. Et aussi, ce qu'on cherche à transmettre, c'est une réflexion sur l'enfant et sur l'homme en particulier, qui, même s'il est susceptible de faire des erreurs, s'il est susceptible de ne pas être aussi encadré, éduqué et perfectible, et par conséquent, voilà, on est en plein dans le cours de philosophie.
Alors, on se sert de différents outils. On a parlé là du film, du festival du film judiciaire. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans l'introduction, d'un film en particulier, La tête haute. Qu'est-ce que vous, peut-être à titre plus personnel, vous retenez de ce genre de film ? Et qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire ? Et comment après on s'en resserre dans le cadre de ces cours pour travailler autour de ces notions de justice et notamment de justice pour les mineurs ?
Alors, bon, l'intérêt du film, c'est évidemment de nous mettre en situation, donc d'une situation précise, concrète, qui permettait d'inscrire la philosophie en prise directe sur la réalité et pas simplement d'en faire un discours spéculatif sur la justice. L'intérêt aussi, c'était d'amener à penser le rapport entre, d'un côté, la nécessité d'éduquer, d'accompagner, et de l'autre, le rôle de la sanction, hein, puisque dans le film, on voit bien qu'à un certain moment, la juge est prise entre deux feux. Que faire entre envoyer le jeune homme qui s'appelle Maloney en prison ou bien continuer à le soutenir par des mesures éducatives. Et ça nous a permis de réfléchir justement sur le sens de la sanction.
On participe avec Principe Actif un petit peu à ce grand projet. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte de travailler avec l'outil radiophonique auprès des jeunes, j'allais les appeler les élèves du micro-lycée, notamment toujours sur cette question de philosophie et de justice?
Alors, au niveau radiophonique, l'intérêt, il est double. D'abord, avant l'émission, ça nous a permis de constituer un champ documentaire assez large et de croiser des discours qui ne sont pas seulement ceux de la philosophie, mais aussi le discours de professionnels et puis le discours des gens qui avaient affaire avec la justice. Ça nous a permis aussi de travailler sur l'organisation, sur la prévision, sur la sélection aussi des données et d'arriver à faire avec ce qu'on a. Hein, en prévision d'une émission de radio. Et puis, l'idée aussi, c'était que pendant l'émission, eh bien, il y avait cet exercice de la parole, qui est aussi important que l'exercice de l'écrit. Il y avait aussi cette idée que chacun a une parole et qu'elle mérite d'être entendue, et qu'il faut parfois un peu de courage pour la prendre, et qu'en même temps, c'est comme ça qu'on gagne une forme d'estime de soi. Et enfin, c'est un travail en temps imparti, donc aller à l'essentiel, c'est aussi un très bon exercice. Et puis, par ailleurs, ça a été important aussi parce que ça m'a permis de situer le discours de la philosophie par rapport à d'autres discours. Les autres discours sont des discours impliqués, des discours qui sont chargés d'émotions parfois, des discours de professionnels. Et la philosophie, elle arrive en second. Elle arrive une fois que tout ça s'est fait et elle interroge la nature de la justice, de la sanction, de l'ordre qu'institue la justice. Elle interroge les préjugés qu'on peut avoir. Et elle interroge aussi, comment dire, les conséquences. Elle permet de prendre un esprit critique, d'avoir un esprit critique sur la situation. Donc l'idée, c'était justement de situer ce discours de la philosophie qui est toujours second, qui suppose un temps de recul, la méditation, le calme, et en même temps, qui n'est pas un discours purement spéculatif, mais qui cherche à penser la réalité. Voilà, donc l'idée, c'était de donner du sens au discours philosophique.
C'est une grande première, ou en tout cas, ce n'est pas régulier que l'on fasse des émissions thématiques, qu'on parle un peu vulgairement de philo sur l'antenne de Principe Actif. Et en tout cas, ça nous plaît bien pour le moment, même si on est au début de cette émission. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose en particulier avant que j'invite Wilfried à nous parler un peu plus en détail du film La tête haute, dont on s'est servi comme appui pour cette émission?
Juste un détail, la justice est au programme de philosophie et au programme du bac que passent les élèves.
Voilà, il faut évidemment, pour eux, qu'ils ne perdent pas de vue cet objectif qui est le baccalauréat. Merci, Madame Jacques, d'avoir répondu à ces quelques questions. On va vous retrouver un peu plus tard au cours de cette émission, mais je vais me retourner vers vos élèves, et notamment Wilfried. Bonjour à toi. Pardon, j'ai oublié de monter ton micro. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
tu vas nous parler et nous résumer, entre guillemets, le film La tête haute, donc vous êtes allé voir dans le cadre du festival du film judiciaire, et dont on s'est servi, on le répète, comme support, comme outil pour travailler, vous d'un côté, vos cours de philosophie, et nous, de façon plus collective, autour de cette émission de radio. Est-ce que tu veux bien nous en donner un petit aperçu de ce film avant qu'on en écoute juste après un extrait?
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce film est sorti le 13 mai 2015. La réalisatrice de ce film est Emmanuelle Berco. Alors, elle raconte l'histoire d'un jeune enfant qui a été plus ou moins abandonné par sa mère devant la juge des mineurs, enfin la juge des enfants. On retrace dans ce film son parcours du début jusqu'à la prise de conscience totale et la maturité, la naissance de la maturité même. Et ce qu'on peut voir dans le film, c'est qu'il est axé beaucoup sur la colère, un peu mal aimés, incompris. Et ce qui est bien, c'est que nous, en tant que jeunes, on peut s'identifier à ça quelques moments, parce que on a nos petites périodes là où on est renfermé sur nous-mêmes et qu'on pense que le monde est contre nous. Et c'est assez révélateur. De plus, on voit bien l'évolution du petit Maloney de ses 6 ans jusqu'à sa maturité, sa majorité aussi, ses 18 ans, sa progression sur le travail personnel en fait, qu'il mène avec les éducateurs, et la relation très particulière, très attachante qu'il a avec la juge, parce que c'est elle qui le suit depuis qu'il est tout petit en fait, et qui a aussi contribué à son éducation, ainsi que ses éducateurs. Par contre, la fin est assez compliquée à comprendre, la fin du film.
Elle laisse libre à l'interprétation.
Voilà, elle laisse libre à l'interprétation, et elle demande aussi une suite derrière pour savoir franchement si vraiment ce qu'on a vu à la fin et ce qu'on peut imaginer s'est réalisé ou pas. C'est ce qui est très intéressant, parce qu'elle amène à se poser beaucoup de questions, ce qui nous renvoie vers la philosophie. Et voilà.
Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu en retiens de ce film ?
Bah, comme là, je l'ai dit...
Je te prends un peu à froid comme ça, là, mais c'est pour t'embêter.
Comme je l'ai dit, on peut s'identifier à Maloney parce qu'il traverse plusieurs phases, plusieurs périodes que nous, les jeunes aussi, on a tendance à traverser. Et je l'ai trouvé très réaliste. Il reflète très bien la réalité, mais quelquefois il y a des zones d'ombre qu'on ne pouvait pas éclaircir nous-mêmes, du coup via l'entretien qu'on a eu avec les intervenants, la juge et la directrice de la PJJ.
Madame Médici et Madame Leroy.
En effet.
Très bien. Autre chose à rajouter, Wilfried ?
Je le conseille en fait, c'est un très bon film.
Voilà, dans cette émission, on devient aussi un petit peu critique cinématographique, et c'est très bien. On va écouter un premier extrait de ce film, donc La Tête Haute. Il me semble que c'est une scène qui arrive dès le départ du film. La première rencontre de Maloney, donc le personnage central du film, avec la juge qui va la prendre en charge.
Votre fils, madame, fait donc l'objet d'un signalement au procureur de la République. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là.
Mais mon fils, lequel? Parce que, si vous avez vu, j'en ai deux, là. J'en ai un et un.
Maloney, 6 ans, il me semble que ça désigne clairement l'un des deux. Vous avez reçu une convocation. Vous l'avez lue, cette convocation?
Parce que je suis ici. Oui, on l'a lue ensemble. Vous pouvez me condamner, moi, je suis pas seule là, moi.
Je suis juge des enfants. Je suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Hein, mon rôle, c'est de protéger les enfants dits en danger.
Mais il n'est pas en danger, Maloney. C'est qui a été à raconter ça?
Votre fils est absent de l'école depuis 2 mois. Mmh. C'est bien ça? Vous avez été convoqué à 3 reprises par la directrice. Alors certes, vous avez fini par vous déplacer, mais pour lui dire de ne pas se mêler de votre vie. Et vous avez quitté l'établissement en jurant de ne plus y remettre Maloney. Ce que vous avez fait. Madame Vatier, ici présente,
qu'est-ce
qui
a
votre domicile. Et vous avez refusé de lui ouvrir. Mais vous m'écoutez, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'ouvrez pas aux services sociaux?
Mais les assistantes sociales, je les connais. Ça fuit dans vos affaires et ça les arrange rien. C'est moi, j'ai 25 ans, j'ai passé l'âge qu'on me dise ce que je dois faire, pas faire, non.
Madame Vatier.
Je dis pas le sac.
Madame Ferrando, c'est vrai, une défiance vis-à-vis des services sociaux et éducatifs. C'est très difficile d'établir un dialogue, de commencer un travail.
On est dans la mise en place d'une mesure de protection. Dans mesure de protection, vous entendez, il y a le mot protection. Ça va juste mettre un cadre.
Non, mais comme si je serais un danger public. Mais vous en voulez un comme ça? Hein? Qui est toujours en train de faire des crises pour pas aller à l'école, qui traîne dans vos pattes, il est toujours en train de tout casser et tout ça.
Bon, enfin, il a l'air très calme, hein, ce petit diable, hein, quand même.
Ouais, mais parce que c'est un bislard. Mais là, il fait exprès. Là, il fait exprès, là, d'être comme ça. Mais quand il... Parce qu'il sait, très bien qu'il est dans le bureau d'un juge. C'est tout. Alors, même le père du petit, il en a sa claque à le surveiller tout le temps comme ça.
Le papa est décédé, le papa de Maloney.
Oui, je sais. Je débarque, mais quand même. Monsieur dont madame parle est le beau-père de Maloney.
Oui, il a fait une reconnaissance de paternité. Maloney porte le nom de monsieur.
Bah, monsieur, comme vous dites, il m'a largué comme un sac. De toute façon, c'est une planche pourrie, ce connard.
Il y a peut-être des mots plus appropriés devant les enfants.
Quoi? Pour un connard comme lui? Non, j'en vois pas, non. Espèce de fils de pute, ouais.
Attendez, vous êtes dans le bureau d'un juge, vous n'êtes pas au bistrot du coin.
Tiens, ça c'est toutes ses affaires.
Calmez-vous.
Mais ça suffit bien pour un moins que rien comme lui. Hein? Vous le voulez, c'est ça?
Asseyez-vous.
Et bien, garde-le, il n'y a pas de problème. De toute façon, bonne chose, parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse.
Mais enfin.
Et moi, j'en veux plus. Vous avez qu'à prendre, les gars, j'en sais plus.
Mais asseyez-vous une seconde, asseyez-vous. Madame Ferrando. Bon, préparez une OPP.
J'appelle la MDE en espérant qu'ils aient une place.
Oui.
Elle avait préparé le sac quand même.
Oui. Malory?
Voilà, un extrait de Schubert, si j'ai bien compris, il est dans le film La tête haute. On va échanger avec Wilfried, si tu veux bien. Voilà, c'est vous qui avez choisi cette première pause musicale. Et si tu peux nous donner un petit peu une explication, ou en tout cas voilà, une raison pour laquelle nous avons choisi cet extrait.
Bien sûr, parce que le choix n'a pas été du tout aléatoire, vu que cet extrait est tiré directement du film. Une séquence du film qui est très significative, c'est-à-dire c'est la partie là où Maloney, le jeune adolescent, commence à prendre conscience et s'apaiser un peu, commence à savoir qu'il y a des responsabilités à prendre pour son avenir, pour la suite, et passe un cap de sa vie en fait. Il prend sur lui, il apprend à gérer ses émotions et il mûrit tout simplement.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Merci Wilfried pour ces éclaircissements. Nous sommes toujours avec les élèves du micro-lycée et depuis 11h, tout à l'heure, nous parlons de philosophie et de justice pour les mineurs. Dans ce cadre-là, vous avez été voir le film dont on parle depuis tout à l'heure, La tête haute d'Emmanuel Berco. Vous avez rencontré également des professionnels, à savoir une juge pour enfants, Madame Médici, et la directrice d'une unité en milieux ouverts dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse, à savoir Madame Leroy. Je voulais qu'on revienne, nous sommes là avec Wilfried, donc, que vous venez d'écouter, mais également Priscilla, Alex et Florian. Bonjour à vous.
Bonjour.
Petite question comme ça, qu'est-ce que vous avez un petit peu compris du rôle et du métier de juge pour enfants, de juge pour mineurs? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de ce rôle, de ce métier et également du parcours de Madame Médici que vous avez rencontré la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises?
Alors, Madame Médici est une... D'ailleurs, ce qui nous a choqué, c'est qu'elle est très jeune. Alors,
c'était choquant.
C'était assez
tu t'attendais
assez
à voir quelqu'un de plus âgé.
Voilà, et du coup, quand c'est dit juge, on a des années d'expérience derrière et tout, bah alors non. Elle venait juste à peine de sortir de l'école. Elle a fait un bac ES, puis s'est engagée pour un master 2 à l'université. Ensuite, elle a passé le concours de la magistrature et l'intégration à l'école de la magistrature à Bordeaux. Son premier choix, en fait, le choix de ses études-là était... Enfin, elle a eu une révélation par rapport à ça. Elle découvre le métier de juge des enfants au cours d'un stage. Voilà, ce qui lui a permis de se décider, en fait, de faire ça, vu qu'elle était plutôt pour partir dans la police et autre chose qui n'avait vraiment rien à voir, mais qui restait toujours dans le judiciaire. Alors qu'au départ, oui, voilà, elle visait quelque chose de pénal, le parquet et compagnie. Les postes sont attribués en fonction des places en sortie de l'école. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment le choix de l'école qu'ils veulent. Ils peuvent que postuler. Et s'il y a de la place, vous êtes pris. S'il n'y a pas, voilà. Vous êtes classé, en fait, aussi, derrière. Elle débute sa carrière au tribunal de grande instance à Évreux, où elle travaille depuis 6 mois en compagnie de 4 autres juges des enfants. Elle peut changer de poste au bout de 3 ans, mais doit faire 10 ans à l'État et dans une institution judiciaire. Voilà. Elle ne peut pas se permettre de changer ou d'abandonner avant le délai accordé.
Oui, c'est ça. Il y avait une sorte de, si j'ai bien compris, de contrat sur une dizaine d'années, sur 10 ans auprès de la justice. Et en gros, voilà, elle est un petit peu mariée à la justice.
La justice, en effet.
Exactement. Qu'est-ce que toi, tu retiens un peu globalement comme ça, et les autres, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, mais de ce rôle de métier et de ce métier de juge pour enfants?
Je me doute bien que ça peut être assez frustrant quand même de se dire qu'on peut avoir affaire à des gamins de tout âge, et en tant qu'adultes nous-mêmes et quelquefois parents aussi, on aurait tendance à se mettre à la place et avoir des sentiments, mais là elle est obligée de faire un pas à ses sentiments, à son avis personnel, à son ressenti, et elle est obligée de suivre et d'appliquer la procédure, ce qui peut des fois faire très mal à l'un comme à l'autre.
Oui, il y a la question de la gestion des émotions qu'on abordera peut-être un peu plus tard dans cette émission, mais qui est évidemment pas facile à aborder, y compris pour une professionnelle et une juge auprès des mineurs. Est-ce que vous vous souvenez de qui saisit la juge pour enfants, qui la mandate pour qu'elle instruise un dossier et donc prenne en charge le dossier d'un jeune?
Alors pour intervenir, elle peut être saisie par le procureur ou le substitut du procureur, donc le ministère public, qui sont des magistrats du parquet, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les parents, ensemble ou séparément, la personne à qui l'enfant est confié, le mineur lui-même ou le conseil général. Elle peut aussi se saisir elle-même quand le mineur n'est pas capable de déterminer qu'il est en danger. Et généralement, le signalement peut être fait par des particuliers auprès de la CRIP, cellule régionale d'information préoccupante.
Merci Priscilla, c'était très clair. Une autre question comme ça, est-ce que vous vous souvenez de, Wilfried en parlait un petit peu, mais de quelle tranche d'âge, dans quelle tranche d'âge la prise en charge a lieu et la juge intervient? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ça?
Alors pour les tranches d'âge, la juge s'occupe des enfants mineurs, donc elle s'occupe d'eux jusqu'à leurs 18 ans, mais elle peut décider de les suivre encore un peu après leur majorité. Après, au niveau des traitements prévus par la loi, pour la responsabilité pénale des mineurs, il n'y a pas d'âge minimum. Donc à partir du moment où les mineurs ils sont capables de discernement et qu'ils commettent des crimes ou des délits, ils peuvent être connus coupables.
D'accord. Et il y avait une par rapport à d'éventuelles condamnations, un principe où, alors je ne sais plus comment elle avait appelé ça, mais où il prenait une condamnation, s'il y avait de la prison ferme, moitié moins qu'un adulte. Vous vous souvenez de ça ? Il y avait quelque chose comme ça.
Ouais, alors pour les moins de 13 ans, en fait, il n'y a pas de peine, mais il y a éventuellement des mesures éducatives qui peuvent être prises. Et ensuite, à partir de 13 ans, le mineur peut encourir des risques pénals, enfin des sanctions, et peut être placé en garde à vue. Sinon, si une sanction pénale est prise, le mineur bénéficie de l'excuse atténuante de minorité et sa peine c'est est divisée ça. Par deux par rapport à celle d'un majeur. Et entre 16 et 18, l'excuse atténuante ne joue plus quand il y a récidive, en fait. Et donc, pour ce qui concerne la gestion des dossiers, donc, il y a environ 350 et 500 dossiers par juge. Donc, elle peut se défaire d'un dossier parce qu'elle ne connaît personnellement... parce qu'elle ne connaît personnellement... qui est en examen ou parce qu'elle a des rapports trop difficiles, en fait, avec le gamin en question. Voilà.
Très bien. Il y avait une notion comme ça aussi que j'ai un peu retenue parce que j'ai assisté aussi à cette entrevue avec ces deux professionnels, donc la juge pour enfants, mais aussi la directrice de l'unité en milieu ouvert dépendant de la PJJ. Qu'est-ce que vous auriez à dire autour de cette notion de... un enfant délinquant, c'est un enfant en danger. Là, on commençait à arriver sur la thématique du civil et du pénal. On peut rajouter des éléments là-dessus si on n'a pas forcément tout dit, mais voilà, il y avait une idée comme ça un petit peu importante que moi j'ai retenue au cours de cet échange, que voilà, un enfant délinquant ou faisant des actes de délinquance est avant tout un enfant en danger. Est-ce que vous auriez envie de éventuellement intervenir autour de ça ? J'ouvre les micros si.
En fait, quand on dit un enfant délinquant, c'est un enfant qui est en danger. C'est déjà en premier soin un danger pour lui-même, c'est-à-dire qu'il va commettre des actes dont il n'a sûrement pas conscience ou dont il n'était pas d'accord, et il va le faire par pulsion, sur un coup de tête, et les répercussions qu'il y aura derrière, il ne s'y attendait pas, donc du coup ça va lui faire un choc pour lui et ça risque de l'amener quelque part dans un chemin qu'il n'avait pas choisi. C'est pareil pour un enfant en danger aussi, ça peut être danger dans sa famille, c'est-à-dire maltraité, comme justement lors de l'échange, la juge nous a raconté un cas qu'elle a eu où les enfants étaient enfermés dans une pièce, alors il n'y avait aucun développement, que ce soit mental, intellectuel, incapacité de formuler des phrases, de se tenir debout, conditions d'hygiène déplorables, ça c'est un danger. Et puis les parents, quand on leur a interrogé dessus, ils niaient totalement cela. Pour eux, c'était tout à fait normal. Après, c'est normal pour...
Là quand même, il y avait en effet nécessité que la justice intervienne et qu'il y ait une action... vraiment auprès de la famille et en particulier auprès du jeune dont elle parlait et qu'elle prenait en exemple. Éventuellement autre chose à rajouter, sinon on avance ? Pas forcément. Eh bien alors on continue. On retrouve Jean. Bonjour à toi. Alors on fait appel à toi parce que, comme on le disait tout à l'heure en discutant dans l'introduction et en discutant avec Madame Jacques, votre professeur, c'est dans le cadre d'un cours de philosophie qu'ont lieu ces échanges et cette émission. Et justement, tu vas nous lire un premier texte d'un philosophe. Écoute, le mieux c'est que je te laisse la parole. Si tu veux bien te rapprocher du micro, qu'on t'entende bien, ce sera parfait. Voilà, merci Jean.
Alors c'est un texte d'André Comte-Sponville, extrait du Petit Traité des Grandes Vertus. Qu'est-ce qu'un juste ? C'est quelqu'un qui met sa force au service du droit et des droits, et qui, en décrétant en lui l'égalité de tout homme avec autre, malgré les inégalités de fait ou de talent qui sont innombrables, instaure un ordre qui n'existe pas, mais sans lequel aucun ordre jamais ne saurait nous satisfaire. Le monde résiste, et l'homme. Il faut donc leur résister, et résister d'abord à l'injustice que chacun porte en soi, et qui est soi. C'est pourquoi le combat pour la justice n'aura pas de fin.
Très bien. Merci Jean. On va s'accorder une deuxième pause musicale dans cette émission. Sex boys.
I think you're freaky
Les Sud-Africains de Die, ou Die, je ne sais pas, Antwoord, qui était passé d'ailleurs il y a quelques années au rock dans tous ses états. Le morceau s'appelle I Think You Freaky, avec mon plus bel accent anglais. Et on a Priscilla là, qui va nous donner quelques explications quant à au choix de cette deuxième pause musicale.
Alors oui, c'est une musique déjà qui a été utilisée deux fois pardon dans le film. Une première fois dans la boîte de nuit, donc ça peut rappeler un peu la violence de la transe de Maloney justement qui précède un accident de voiture qu'il va avoir. Et c'est une musique qui est également utilisée dans le générique de fin. Et c'est aussi une musique que j'apprécie beaucoup. Voilà.
C'est bien aussi de le dire. Et pour ceux qui nous prendraient en cours, le film dont tu parles à l'instant, c'est La tête haute d'Emmanuel Berco, oui, qui nous sert tout au long de cette émission des quartiers comme support de réflexion et de travail autour des notions de justice, et justice notamment pour mineurs, dans le cadre de vos cours de philosophie au sein du micro-lycée à Aristide Briand.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif. Ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Et oui, Principe Actif, toujours en direct ici dans nos locaux avec les élèves du micro-lycée d'Aristide Briand, où nous questionnons donc ces questions, pardon, ça fait deux fois question dans la même phrase, mais c'est pas grave, je poursuis, de justice et de justice pour les mineurs plus particulièrement, avec en filigrane vos cours et vos réflexions philosophiques. On accueille un de ces nouveaux élèves, à savoir Stéphane, bonjour à toi.
Bonjour.
N'hésite pas à te rapprocher du micro, histoire qu'on t'entende bien. Et on a toujours mon assistant Wilfried et Laura aussi qui nous rejoint. Voilà, j'ouvre son micro. Et Jean, qu'on retrouvera dans quelques instants pour un nouveau texte, une nouvelle réflexion. Alors là, on va discuter un peu à bâton rompu autour des différentes mesures qu'un juge pour enfants peut prendre dans le cadre de son métier et des affaires et des dossiers qu'elle suit. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ces différentes mesures qui sont prises ou qu'un juge est amené à prendre dans le cadre de son travail?
Stéphane. La juge peut prendre différentes mesures au civil, en l'occurrence l'assistance éducative ou la protection de l'enfance. Et dans ces mesures, on retrouve donc, par exemple, l'aide à la gestion du budget familial, l'assistance éducative, donc, c'est-à-dire le suivi du mineur par des éducateurs, un psychologue, une assistante sociale, tout en laissant l'enfant dans la famille. On peut aussi déplacer l'enfant et le confier à un membre de la famille. Et pour finir, on peut aussi placer l'enfant dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance ou dans une famille d'accueil. Concernant les mesures pénales, première chose à savoir, c'est que la juge travaille avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on a d'ailleurs pu rencontrer par le biais de Madame Leroy, qui est actuellement directrice d'un service éducatif en milieu ouvert. Alors la PJJ, elle intervient pour mettre en œuvre les décisions du juge concernant les mineurs essentiellement délinquants. Elle ne peut pas proposer d'incarcération au juge, mais elle peut proposer une alternative à la détention. Et l'objectif au final, c'est vraiment d'aider le mineur à se reconstruire. Dans certains cas, elle peut aussi intervenir quand le juge il a besoin d'investigation préalable à ses décisions concernant un mineur. Voilà.
Est-ce que tu te souviens, ou les autres, un petit peu du parcours de Madame Leroy, donc qui travaille pour la protection judiciaire de la jeunesse?
Alors, Madame Leroy...
où je te surprends.
Non, d'après ce que je me souviens, Madame Leroy, elle a d'abord été éducatrice pendant 14 ans, et il me semble qu'elle a passé un concours pour devenir directrice de son centre. Voilà, c'est tout ce que je me souviens.
Alors, tu en as parlé un petit peu, au bout d'un moment, quand on arrive dans le domaine du pénal, les adolescents, les jeunes peuvent être placés dans différents lieux de prise en charge, voire de détention. On parle notamment de centres éducatifs renforcés, de centres éducatifs fermés, jusqu'à arriver pour dans des quartiers pour mineurs, dans des centres pénitentiaires et des établissements pénitentiaires pour mineurs, exclusivement pour mineurs. Est-ce que tu as quelques infos à nous donner, histoire qu'on comprenne un petit peu mieux les différents lieux, ce que ça représente, et le fait que tout n'est pas forcément considéré comme un lieu de détention. Tu l'abordais juste avant, à l'instant. Stéphane.
Voilà, alors les différents lieux de prise en charge et détention des mineurs, donc on retrouve les services d'action éducative en milieu ouvert, donc ils comprennent des éducateurs, des psychologues, des assistantes sociales, dont la tâche est d'accompagner les mineurs et leurs familles quand la santé, la moralité, la sécurité et l'éducation des enfants elles sont compromises. Les éducateurs se déplacent dans les familles où ils reçoivent les enfants dans leur bureau environ toutes les 2 à 3 semaines. On retrouve aussi les centres éducatifs renforcés qui sont destinés à créer une rupture dans la vie du mineur délinquant et à faciliter sa réinsertion. Souvent à la campagne, ils sont caractérisés par des programmes intensifs d'activités pendant des sessions de 3 à 6 mois et un encadrement éducatif permanent. Donc c'est en l'occurrence le centre où Maloney est envoyé après son vol de voiture avec violence. On a aussi les centres éducatifs fermés. Donc là, par contre, le placement est imposé pour 6 mois dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une liberté conditionnelle. C'est un lieu de résistance donc fermé et il concerne des jeunes délinquants, souvent multirécidivistes. Ces jeunes qui sont placés dans les centres éducatifs fermés, ils risquent la prison s'ils ne respectent pas la mesure prise par le juge. Et donc, c'est le centre où Maloney est envoyé après l'accident de voiture avec son petit frère. Voilà.
Très bien, merci Stéphane, c'est très complet, on apprend pas mal de choses en t'écoutant. Il y avait une question que tu soulevais un petit peu et qu'on avait, évidemment tout est prévu, hein, tout est fomenté dans cette émission. Le rôle de la sanction qui peut constituer un électrochoc, et on va écouter, d'ailleurs c'était prévu qu'on le fasse juste avant, donc ce que je vous propose, je viens de m'en rendre compte, qu'on écoute maintenant cet extrait de film, donc La tête haute d'Emmanuel Berco, on le répète, et voilà, juste après qu'intervienne une entrevue donc de Maloney avec la juge, elle pose une sanction à Maloney.
Vous imaginez, vous avez 16 ans là, on vous a laissé des chances, Maloney. Je ne sais pas quelle sera la décision de Madame le Président. Mais là, je demande que vous partiez en prison, là, maintenant. Peut-être que l'enfermement, ça va être un électrochoc. Et ça va vous permettre de vous poser, un peu. Mais utilisez la détention, si Madame le Président me suit dans mes réquisitions, pour essayer de construire quelque chose, de réfléchir. C'est ce que vous avez de mieux à faire, aujourd'hui.
Je vous remercie, Monsieur le Procureur. Je vous informe de ma décision.
Très bien.
Maître, sur les réquisitions.
Pour un avocat, c'est difficile d'entendre que la prison est un moyen d'apaisement pour un jeune homme. S'il faut lui dire aujourd'hui qu'il est responsable, moi je veux que vous lui disiez qu'il est en souffrance. Quelle prison soulage la souffrance? Il y a de l'autodestruction chez lui. Ce ne sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont l'aider à y voir clair, à un âge où on s'interroge, où on cherche à savoir qui on est. Je vous demanderai, Madame le Président, de préférer un placement en centre éducatif fermé que de suivre les réquisitions du procureur.
Bien, merci, maître. Tu as la parole en dernier, tu ne veux toujours pas parler? Je vais vous demander de sortir quelques minutes, le temps que je prenne ma décision. Regardez ce jeune homme sous bonne escorte. Attendu que...
Est-ce qu'il m'a appelé? Elle était inquiète de ne pas pouvoir te joindre. Du coup, j'ai su, pour vous deux. Alors je lui ai dit ce qui t'est arrivé. Qu'on l'appellera après l'audience. Ok.
Vous pouvez entrer. Bon, Maloney, aujourd'hui, tu pars en prison. C'est ma décision.
Merci.
Mmh.
Tu viens signer là où j'ai signé. Tenez. Vous pouvez y aller.
Extrait du film La tête haute, où on entend cette condamnation prononcée par la juge, et où Maloney, donc le jeune qui part en prison au cours de cet extrait, lui dit merci à la juge. Voilà, Jean, je me retourne vers toi. Quel rôle la sanction peut avoir, et est-ce qu'il peut servir d'électrochoc? C'est un petit peu les discussions que nous avions également lors de votre entrevue avec la juge pour mineurs la semaine passée.
La sanction peut avoir plusieurs fonctions. Tout d'abord, ce n'est pas une vengeance qui répond au mal par plus de mal encore et qui n'est pas universalisable et qui n'est pas juste. Elle punit également une faute et donne à réfléchir. Madame Leroy, elle parle d'électrochoc qui peut parfois être salutaire. Elle va même jusqu'à dire qu'on peut éduquer en prison. Elle permet également de rappeler à l'ordre et de fixer des limites. Et elle reconnaît la culpabilité en un sens et soulage la conscience de son face-à-face avec la culpabilité. Dans l'extrait, on le voit, Maloney dit merci à la juge qui l'envoie en prison. C'est sûrement une façon de le libérer et de payer sa dette à la société.
Quand Madame Leroy dit qu'il est possible d'éduquer en prison, c'est parce que, et peut-être que nos éditeurs ne le savent pas forcément, il est possible, notamment pour les jeunes condamnés, d'avoir accès évidemment à une formation scolaire, éventuellement professionnelle, et la possibilité peut-être même, si j'ai bien compris, de rencontrer d'éventuels patrons qui se déplaceraient en prison. Alors je ne sais pas si c'est une pratique qui a lieu, qui est régulière, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire, Jean, qu'il est possible de continuer son parcours éducatif à l'intérieur même des murs de la prison. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de commenter, rajouter quelque chose, ou on passe à la suite? Ok.
Je pense qu'on peut avancer.
On avance, alors, si vous pensez qu'on peut avancer, voilà, on avance. Il y a notamment Laura, bonjour à toi Laura.
Bonjour.
Qu'on n'a pas encore entendu, il me semble.
Non.
Tu vas éclairer un peu nos lanternes avec un nouveau texte de Pascal, si je dis pas de bêtises,
oui.
Un philosophe. Eh bien, je te laisse la parole et puis nous lire ce texte.
Ok, c'est sur la justice et la force. Donc, il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Aussi, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste. Elle a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.
En effet, c'est ardu comme réflexion. Ça demande un petit peu de temps pour se reposer autour de ce texte. Néanmoins, Stéphane, il me semble que tu avais quelques mots à nous dire sur ce texte de Pascal.
Oui, voilà. Alors, il y a beaucoup de répétitions, mais le texte de lui-même, il est assez clair. En fait, ce qu'on pourrait retenir, c'est que séparément, force et justice, s'entraînent l'impuissance ou la tyrannie. Donc, il faut donc les réunir. Et Pour autant, ce n'est pas la justice qui doit être forte, puisqu'il y aura toujours des gens puissants ou influents pour polémiquer et contredire la justice. Mais au final, c'est la force qui doit être juste. Voilà.
Pas mal. Merci Stéphane. On va s'accorder une nouvelle pause musicale avec un choix d'une de vos camarades qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui. Mais le morceau est assez puissant, assez évocateur. Il s'agit de Kenny Arcana et Connard.
Quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces, qui salissaient ton sang plein d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avait que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges et que je finirais mort dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés et connards. Tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer, l'exemple infatuel que les lois haïssaient, pointé du doigt et qui depuis ses 12 piges n'est plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, ou ceux qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents. Connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle, et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient le peu d'espoir qui reste. Quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles quand tu lui disais que mon cas était irrattrapable et que rejoindre le droit chemin, j'en étais bien incapable. C'était, on ne peut plus sauver cette sauvage, madame Faucifer, mais qu'est-ce qu'il y a cru? Tu allais me sauver toi ou ton Lucifer? Qu'est-ce que tu croyais? Connaître les mots, ma base de dressage, mais toutes vos institutions mènent à la perte, tu captes le message. Alors, si tu crois toujours pour gagner l'obéissance, c'est par la force que ça se passe et que t'es toujours aussi insensé. Et connard, pour nous faire s'agir, c'était quoi tes méthodes? Ah ouais, troquer les mômes en gonflant leur tête de médocs. Et connard, trop facile de faire couper des neuroleptiques à des petits saigneux devenus légumes par ta camisole chimique. Et connard, à tes yeux, on était quoi tous? Juste la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse avec fourberie. Deuxièmement, chair de revanche, tu peux toujours prier ton diable, qu'aucun d'entre nous se venge. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents. Connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle, et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient le peu d'espoir qui reste. Quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles lorsque tu ordonnais avec ta malveillance qu'aucun éduc ne devait me laisser une seconde sans surveillance, de peur que je parte, qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais que j'allais me laisser mourir dans ton enclos ou attendre que quelqu'un vienne me secourir? Non mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on soigne un feu avec l'alcool, marcher à la baguette, moi je t'en foutrais des piqûres d'alcool car tu avais pas le droit. Et ça tu le sais très bien d'ailleurs, je pourrais traîner devant tes tribunaux, tes pratiques de tirailleur, mais pensez pas, non mes principes là retournera pour toi aussi. Et tu te rappelleras ce jour-là de moi et des autres petits indociles, car y'a une justice là-haut plus juste que votre système. Et on finit toujours par payer les effets des causes qu'on sème. Et connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, c'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents. Connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle. Et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient le peu d'espoir qui reste. Quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j't'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler.
Kenny Arcana et Connard.
Principe actif 102.4 FM. 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 Principe actif 102.4
FM. Assieds-toi.
Bien, tu t'assois, jeune homme. Passe-toi ton Malony. Bah, si tu veux pas t'asseoir, tu restes debout, mais tu me regardes au moins. Hein, y a rien d'intéressant par terre. Tu retires ta casquette, s'il te plaît.
Non.
Et pourquoi non?
Avec les microbes.
Ouais, il a attrapé des poux à traîner n'importe où.
Est-ce que tu te souviens être déjà venu dans ce bureau? Est-ce que moi, tu sais qui je suis?
La juge.
Bon. Et alors, est-ce que tu sais ce que tu fais ici aujourd'hui? Pourquoi tu es ici, aujourd'hui, dans le bureau d'un juge? Tu sais pas ce que tu fais ici? T'as ton permis de conduire, jeune homme? Ça vous fait rire. C'est un acte très grave, hein, de conduire sans permis. Il n'y a pas eu de victime, il aurait pu renverser quelqu'un. Et vu ce qu'il encourait, croyez-moi, vous auriez plus du tout envie de rire. Hein. C'est vous qui êtes civilement responsable, madame. Si votre fils blesse grièvement quelqu'un, l'indemnité, elle peut se chiffrer en millions d'euros.
C'est pas de sa faute.
Et oh, je t'entendrai plus tard. Si vous ne voulez pas perdre la garde de vos enfants et répéter le schéma, hein, il va falloir redresser la barre très vite. Et vous montrer capable d'un peu plus de maturité pour élever vos enfants. Élever.
Elle me l'a dit, conduis pas, mais moi, je l'ai pas écouté.
Je ne t'ai pas donné la parole. Madame, je vous écoute.
C'est vrai, des fois, je m'y prends mal, mais... Moi, je les aime, mes enfants. Je leur frappe pas dessus.
Personne n'a dit ça.
Et puis, je fais un bon travail avec la psy du centre social,
ouais,
là.
Enfin, quand vous y allez, une fois sur quatre.
Et avec Gladys aussi.
On essaye, ça prend du temps et des prises de conscience, mais qui s'évanouissent un peu au fil des jours. Alors, j'actionne le warning. Bon, pour ce qui est de l'autorité, les règles...
Et sentimentalement, vous en êtes où, là? Oui. Vous avez quelqu'un, en ce moment, de stable?
Il est stupéfiant?
Elle a arrêté. Un petit touche plus.
Zéro. Ouais, il y a un effort, hein, à ce sujet.
Bon, ben, c'est déjà un pas. Faut garder ce cap, madame.
Carrément.
Et la scolarité, comment ça se passe?
Il n'a été que 5 jours en classe depuis septembre. Il y a un comportement agité, détérioration de matériel, dérapage verbaux avec les professeurs.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées si tu ne vas pas au collège?
Bah ça, c'est la question que je pose tous les jours. Hein. Ah bah ouais, il part le matin, il revient le soir. Et bah on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas il a été où. Et moi, je sais même pas à quelle heure il va rentrer. Hein. C'est stressant. Pour mon intimité...
Et un enfant qui erre toute la journée, qui ne va pas au collège, ça ne vous stresse pas?
Il passe en conseil de discipline le 11 octobre.
Bon, ben on va attendre l'issue du conseil de discipline. Et si tu échappes à l'exclusion, ce que je te souhaite, mais y du tien, parce que les collèges à Dunkerque, il n'y en a pas 36 000. Hein. Il y en a déjà 2 qui veulent plus que toi. Madame Mathieu me fera un rapport. Je demande un suivi éducatif. Je mets en place une mesure d'AMO. Hein, Malony, ça veut dire que tu devras voir l'éducateur ou l'éducatrice qui sera désignée.
Non, mais vous allez arrêter quand, là, de fouiller dans notre vie, là, hein? Confier mon fils à des autres.
Sinon, vous sortez.
Ouais, vous me poussez à m'énerver. Après, comme ça, vous allez écrire à elle. C'est énervé, elle sait pas s'occuper de ses gosses.
Mais si vous me laissiez finir, vous m'apprêtez justement à insister sur le fait, Madame Ferrando, que vous aussi, vous devez participer au suivi éducatif de votre fils. Hein, on ne fait pas de miracle sans l'implication des parents. Pour aujourd'hui, je m'en tiens à un avertissement. Mais ça suppose aussi que tu reprennes un rythme scolaire normal et que tu te tiennes à carreau. Hein, sinon, c'est une mesure pénale au-dessus de ta tête. La balle est dans ton camp. Compris?
Voilà, un dernier extrait du film La tête haute qui nous sert, on le répète, de support de réflexion à cette émission. Très concrètement, dans cet extrait, est posée la question, ou se pose la question, et on va tâcher d'y apporter une réponse, la place, le rôle des parents dans des mesures éducatives, quand on se retrouve confronté à un juge des enfants. Voilà, quelle place, quel rôle jouent les parents dans cet accompagnement et dans ce parcours? Wilfried, évidemment.
En effet, le rôle des parents dans ce genre de situation est vraiment important. Parce que avant tout, on tient à garder un parfait équilibre dans les liens familiaux. Et comme l'extrait le montre, on a là affaire à une maman qui est un peu une maman adolescente qui ne connaît pas, enfin qui ne se voit pas dans le rôle de mère, mais plutôt de bonne copine avec qui je vais faire des bêtises et voilà. L'extrait que tu nous as passé qui est très marquant, c'est quand elle dit on sait pas où il va, il s'en va le matin, il revient tard le soir, je sais pas, c'est stressant. Mm-hmm. Et pour mon intimité, donc ça montre qu'elle est totalement désintéressant en fait. Son fils parlait n'importe où, subir n'importe quoi, mais elle, ce qui la préoccupe, c'est son intimité. Alors c'est ce que nous a dit la juge lors de l'interview, l'entretien. Et la directrice de la PJJ qui sont là pour ne pas détruire en fait les liens familiaux entre les enfants et les parents. Donc toute mesure prise doit toujours être prise avec les parents. Donc on implique les parents dans le système éducatif, dans le suivi psychologique, entretien avec la famille régulier et il faut toujours qu'on... Il n'y a pas que l'enfant derrière qui est mal, en fait. Il y a aussi les parents. Et quand on a du mal à gérer son enfant, ce qui peut être compréhensible, dans ce cas, la juge met en place un suivi psychologique pour pouvoir extérioriser les pensées et ainsi de suite, et réunir, enfin, regrouper la famille, reconstruire et repartir sur de bonnes bases.
Merci Wilfried. Dernière question, un petit peu en guise de conclusion, Madame Jacques, la professeure de philosophie qui encadre les élèves aujourd'hui et qui nous a accompagnés dans toute cette émission. Je me retourne un peu vers vous, mais les élèves autour peuvent aussi prendre la parole. Au final, oui, cette dernière question, un peu en guise de conclusion, qu'est-ce que juger, rendre justice, ça... Voilà, il y a un certain nombre de réflexions à avoir, notamment d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce que justement répond à cette question la philosophie, ou les philosophes, ou la professeure de philosophie?
Alors en fait, l'intérêt de qu'est-ce que juger et qu'est-ce que surtout rendre justice, c'est que c'est une question qui, en fait, est la question à laquelle nous sommes arrivés dans le cadre du cours de philosophie, parce que nous avons commencé par nous demander si... finalement, la justice, c'était un idéal qui servait de guide pour établir des lois et pour rendre, pour les appliquer, tout simplement. Et devant la difficulté qu'il y a à définir la justice, puisqu'il ne suffit pas de la définir par l'impartialité et l'équité, mais qu'il faut aussi mettre des réalités des concrètes, et que cela dépend des cultures, bien entendu, et des sociétés. La question qui s'est posée, c'était: est-ce que la justice, c'est cet idéal qui guide le choix des lois et leur application? Ou est-ce que c'est l'application des lois et le choix des lois qui fait la justice et qui permet de rendre justice concrètement, par exemple au cours d'un procès? Et dans ce cadre-là, évidemment, le film montre à quel point, aussi les entretiens avec la juge, à quel point la justice, c'est plutôt affaire d'appréciation, d'évaluation, dans le cadre de la loi, effectivement. Mais ce qui revient constamment, c'est cette idée qu'on fait au mieux dans l'intérêt de l'enfant, au mieux dans l'intérêt de la famille, et que donc la justice se fabrique littéralement au cas par cas, et que c'est peut-être ça l'équité, en fait, hein, c'est d'adapter la loi qui est extrêmement générale au cas particulier, de façon à avoir la réponse la plus juste, au sens fort du terme. Et pour cela, évidemment, ça suppose que les hommes qui rendent la justice, et les femmes ici en l'occurrence, qui rendent la justice, soient eux-mêmes justes, c'est-à-dire qu'ils soient moralement justes, intègres, ne cherchant pas évidemment à satisfaire leur intérêt personnel, impartiaux, équitables, et puis avec un dévouement qu'on a pu constater extrêmement fort. Et ça permet peut-être aussi de faire la distinction entre la justice et puis d'autres valeurs morales comme la générosité ou la bonté, parce qu'il y a une sorte de rigueur dans la justice, hein, du fait que la loi, évidemment, doit être respectée et qu'on rende à chacun ce qui lui revient, qui est spécifique, évidemment.
Merci. On va écouter un dernier extrait de musique pour discuter un petit peu dessus. C'est un extrait de Beethoven. On en laisse quelques secondes à peine, mais on va le laisser comme ça en tapis et on va finir cette émission avec Beethoven, pourquoi pas. Florian, je crois que c'est toi un petit peu avec qui on avait parlé de ce choix de musique. Pourquoi, comment?
Alors, en fait, c'est un titre que j'ai découvert dans un film, dans Irréversible, de Gaspard Noé. Et c'est, en fait, j'ai de ce film une image mentale, en fait. Et c'est une fin qui m'a marqué, et le son qui m'a marqué, je ne le connaissais pas forcément au début. Et ça traite en fait du fatalisme, mais je pense qu'on peut très bien l'approprier au personnage de Mélanie dans La Tête Haute. Parce que, enfin, en tout cas, après, c'est très personnel, mais quand je l'écoute, en tout cas, il y a une sorte de cloison, en fait, qui commence à se construire autour de la personne. Et je pense que c'est très bien pour le personnage en question.
Un petit peu de musique classique sur l'antenne de Principe Actif, ça arrive, mais c'est pas si régulier que ça, et pourquoi pas. Dernière chose, Florian, on va se rapprocher gentiment de la fin de cette émission. Tu avais un commentaire assez personnel à faire sur le film La Tête Haute, ouais. En essayant de rester justement le plus juste possible, dans son jugement.
Ok. Je pense que déjà c'est un bon support de réflexion pour la philo et pour ce qu'on traite de la justice, mais après ça fait pas pour autant un bon film. Je pense qu'il a plein de problèmes il est pas dénué de force, mais il y a beaucoup beaucoup de manque de justesse dans le film. La caméra ressasse des images préexistantes, je pense notamment par exemple à la scène de l'accident, à la scène de l'hôpital. Il y a aussi la fin qui est très superficielle. Je pense que c'est une fin qui est là pour plaire au plus grand nombre. Il y a aussi, je pense que ça, c'est extrêmement misérabiliste. Je pense aussi, par exemple, je sais qu'il y avait un plan sur un bouton de la mer. Et du coup, il y a très peu d'attachement en fait au personnage. Il y a plein de trucs, mais c'est pas vraiment structuré. Il y a quoi d'autre? Oui, c'est aussi. Il y a pas de mise en scène, et moi ça me dérange. C'est une mise en scène qui est très réaliste, mais pour le coup le film n'est pas du tout réaliste puisqu'il emprunte. Il y a plein d'archétypes, il y a plein de clichés. C'est très prévisible. Par exemple, la relation est juste là pour servir de renaissance à la fin en fait avec la fille. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai perdu son prénom parce que c'est pas non plus un film qui m'a bouleversé. C'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui est très maladroit, qui peut même lasser, mais en tout cas ça m'a lassé. Voilà, donc je pense que faudrait, pour ceux qui aiment la mise en scène et le cinéma, je pourrais conseiller Momie, qui est du bon cinéma, du vrai, de l'original. Voilà.
Avec Céline Dion,
ouais, aussi, notamment.
De Xavier Dolan.
C'est ça.
Exactement. Celui-là, je l'ai vu, La Tête Haute, je n'ai vu que des extraits pour tout vous dire, faire les montages et les extraits qu'on a choisis dans cette émission. Madame Jacques voulait réagir un petit peu à tes propos, Florian, on va lui laisser la parole quand même.
Oui,
voilà,
c'est
un petit peu l'idée.
Oui. Je voudrais revenir quand même parce que, bon, je laisse à Florian la liberté entière de ses appréciations sur le film.
Merci.
Mais il n'empêche que, au dire des professionnels, c'est un film extrêmement juste, c'est-à-dire qui correspond exactement à ce qui se passe dans la réalité. Et à ce titre-là, il faut quand même rappeler que la réalisatrice a travaillé avec des juges, qu'elle a travaillé dans le cadre d'un tribunal, que c'est un film qui est extrêmement documenté et qui est très très précis au regard des termes utilisés, des contextes. Il faut quand même lui rendre ce qu'il mérite. Et je trouve, moi, que c'est pas si facile de filmer une juge dans son bureau de manière aussi répétitive et aussi statique. Et peut-être pas de mise en scène, mais une mise en scène, une façon de procéder qui est quand même très réfléchie.
Alors, sans forcément trancher, mais mettre un terme à cette discussion autour du film qui était, on le rappelle, un support et pour vos cours de philosophie et à cette émission pour questionner, interroger, voir un petit peu ce que vous, dans le cadre de vos cours et de ces rencontres et de ce film, vous aviez retenu des concepts et des notions de justice et notamment de justice pour les mineurs. On va rappeler que la réalisatrice est Emmanuelle Berco, qu'il est sorti en 2015. Il me semble, Wilfried, c'est ce que tu disais tout à l'heure en début d'émission.
En effet, il est sorti le 13 mai 2015 et il a été nominé justement au César 2016 tant que meilleur film réalisé français. Emmanuelle Berco qui était nominée en tant que meilleure réalisatrice, et ainsi que le jeune Maloney, enfin le personnage de Maloney interprété par Rod Paradot, qui d'ailleurs n'a jamais été acteur auparavant. C'était son premier, son tout premier rôle.
Mais les personnages sont très bien leur personnage.
On va pas relancer le débat parce que voilà, il faut qu'on termine. Et je pense que, à mon sens, le plus juste, c'est d'inviter les auditeurs, s'ils sont intéressés, d'aller voir ce film et de se faire leur propre idée. Ce qui laisse évidemment, et ça ne les empêche pas d'aller voir d'autres films, évidemment, Florian, vous le savez bien. Voilà, on peut se faire son idée. Vous avez on a chacun d'entre nous son point de vue. Et on verra éventuellement ce qu'en pensent nos auditeurs. On va donner la parole à Jean pour un dernier texte qui sera la conclusion de cette émission, d'un point de vue philosophique en tout cas. Jean, je te laisse la parole avant de la reprendre.
C'est un texte d'Alain tiré d'éléments de la philosophie. Je me garderai de considérer la justice comme quelque chose d'existant qu'il faut accepter, car la justice est une chose qu'il faut faire et refaire sans aucun secours étranger, par soi seul et aussi bien à l'égard d'un homme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu.
Ok, merci. Je me suis fait surprendre par ta fin. T'avais autre chose à rajouter ?
Non, c'est tout.
Ok, très bien. Alors, je vais faire envoyer notre générique de fin, puisque cette émission des quartiers touche à sa fin. En espérant que nous avons pu contribuer à alimenter votre réflexion autour de la justice des mineurs. Nous remercions évidemment les élèves du micro-lycée Aristide Briand, à savoir, alors que je n'oublie personne, Alex, Florian, Priscilla, Wilfried, Quentin, Laura, Stéphane, Jean, ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui mais qui avaient participé à la réalisation et à la conception de cette émission. On remercie votre professeur de philosophie, à savoir Madame Jacques. Nous remercions également Madame Médici, juge pour enfants, et Madame Leroy, directrice d'une unité collective en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, d'avoir pris le temps d'éclairer nos lanternes et de contribuer à alimenter cette émission par leurs témoignages, leur parcours. Nous, on se retrouvera très prochainement avec les élèves du micro-lycée pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions des quartiers. Dans quelques instants, pour être tout à fait précis, à partir de 12h30, vous allez retrouver l'émission Bulle les reportages avec une interview de Pierre Lemarchand, animateur de l'émission Eldorado, mais aussi et surtout auteur du livre Karen Dalton. Voilà, c'est à partir de 12h30 sur l'antenne de Principe Actif. Nous vous remercions de votre écoute. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes et on se retrouve très prochainement.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.